Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de CFM Radio pour une émission un peu spéciale. À l'automne prochain, au mois de septembre, les grands électeurs seront appelés à renouveler une partie de notre Sénat, une élection particulière puisqu'elle ne se déroule pas au suffrage universel direct, c'est-à-dire ce ne sont pas les citoyens qui votent directement, mais ce sont principalement des maires, des conseillers municipaux, départementaux, régionaux ou encore des parlementaires qui élisent les sénateurs. Souvent moins, on va dire, médiatisé que l'Assemblée nationale, le Sénat joue pourtant un rôle essentiel dans la vie démocratique française. Il examine les lois, il contrôle aussi l'action du gouvernement et représente même les collectivités territoriales. Alors pour mieux comprendre cette institution et le quotidien que peut vivre un sénateur, j'ai choisi de donner la parole à l'un de ceux qui a représenté le Tarn au Palais du Luxembourg pendant quasiment 20 ans. Et pour cette rencontre, nous sommes chez lui, dans son univers. Bonjour Jean-Marc Pastor.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur CFM Radio et de nous accueillir là, dans ta salle à manger. Alors, quand on arrive chez toi aujourd'hui, on rencontre un homme qui a quitté les bancs du Sénat depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que la politique fait encore partie de ton quotidien ?
De mon quotidien, d'une façon un petit peu particulière, parce que il y a deux choses dans la vie. Quand on est acteur dans la politique, c'est une chose. Du matin au soir, on le vit. On a des soucis, on a des envies, on a des projets. Donc, on le vit pleinement. Mais quand on est, entre guillemets, retraité, c'est plus pareil. Il n'y a plus les mêmes obligations. Et la vie politique, on la vit de l'extérieur. On regarde, on observe, on voit comment se passent les choses. Des fois, on râle. Des fois, on parle aussi, quand même, parce qu'on n'a pas oublié la parole, bien sûr. Mais c'est quand même une autre étape. Et je vis actuellement, depuis maintenant pas mal d'années, cette autre étape, et je ne la regrette pas. Hein. C'est très agréable de voir comment évoluent les choses.
On aura l'occasion dans une autre émission de revenir sur tout ce parcours politique local avec des mandats non seulement de maire, de conseiller général aussi. Mais là, on va se focaliser sur le Sénat, le Palais du Luxembourg et les sénatoriales qui nous intéressent dans le cadre de cette émission. Le jour où tu apprends ton élection au Sénat, donc il y a forcément une campagne autour de ça. Hein. Il faut convaincre des élus de voter pour toi. Qu'est-ce que tu ressens de te dire « Tiens, je vais quitter ma terre tarnaise que je chéris tant » pour aller passer trois quarts de mon temps maintenant à Paris, au Palais du Luxembourg? Tu ressentais quoi à ce moment-là? Donc là, on est en quoi, en 1995?
Cette question, en fait, elle a démarré en 1989. J'étais déjà conseiller général. J'avais mis le doigt dans l'expérience de la vie publique. Et j'avoue franchement que, autant au départ, je m'interrogeais. Je ne connaissais pas, je ne savais pas. Autant quand j'ai mis le doigt, j'étais vice-président du département, en charge de la ruralité, et très honnêtement, ça me plaisait. J'y passais beaucoup de temps, et c'était devenu ma passion.
Et qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? Les rencontres, les déplacements?
Absolument. Oui. Absolument. C'est-à-dire, je crois que là, j'ai fait le tour de tout le département, de rencontrer les gens, de voir les gens, de s'interroger sur leur vie. Comment était la ruralité? On en parlera, si j'ai bien compris, à une autre émission. Mais tout ça m'avait permis de croiser du monde dans ce département. Et en croisant ce monde, ça donne des envies. Je me présente donc à la présidence de ce qui était autrefois l'amicale des maires. Il y avait une amicale des maires qui se réunissait une fois par an pour un repas, à peu près.
Des maires du Tarn.
Des maires du Tarn.
C'est qui est aujourd'hui l'association des maires ruraux du Tarn.
C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour la ruralité. Pourquoi? Et ça a démarré là, la question des sénatoriales. Ça a démarré là. Le quelque chose à faire, c'est que les petites communes du Tarn ont un secrétariat à temps partiel. Elles reçoivent les mêmes courriers, les mêmes informations venant de tous les ministères comme les grandes villes. La différence, c'est que les grandes villes ont un millier de personnes pour décortiquer, pour analyser ces informations et permettre aux élus et aux maires de prendre des décisions en fonction de ça. Les petites communes, un secrétariat à mi-temps, à quart de temps, deux demi-journées par semaine avec la secrétaire, et puis le maire doit se débrouiller, les adjoints doivent se débrouiller. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. La ruralité, il faut l'aider. Donc, il faut mettre en place une vraie association au niveau départemental qui décortiquera tout ça et qui apportera le service aux élus locaux et plus particulièrement aux élus ruraux. Donc, modification de l'amicale des maires en une association. Et ce n'était plus l'amicale, j'ai créé donc l'association en 1989, l'association des maires et des élus locaux. Le département m'a aidé, je le dis franchement pour démarrer. Je recrute 7 salariés, un avocat, un conseiller de gestion, un conseiller pour mettre en place et pour décortiquer la totalité des informations qui arrivent, de façon à le retourner auprès de toutes les communes pour permettre aux élus des petites communes d'avoir un retour, une synthèse de ce que nous recevons régulièrement.
Et de s'en saisir plus rapidement.
Exactement. Mmh. Et surtout, d'avoir le conseil, d'y aller gratuitement. Ça, c'était important.
Et ça existe toujours, hein, cette association
ça des maires toujours,
du Tarn, qui est présidée aujourd'hui par Jean-Marc Balaran, le maire de Sainte-Croix.
Qui a pris la suite et qui a développé cette activité. Donc, on est en plein là-dessus. Et là, c'était en 89. Elle a été vraiment opérationnelle en 90, sous cette forme-là, avec un volet supplémentaire qui était la formation. On devient élu. Il n'y a pas un diplôme pour devenir élu. Il faut se former pendant des années, pendant pratiquement un mandat, pour en comprendre les rouages et pour apprendre le savoir-faire. Chez nous, on a un mot qui résume tout ça. En occitan, on dit « l'oubiaïs », avoir l'oubiaïs, c'est-à-dire avoir la formule. Chacun peut avoir ses idées politiques, peu importe. Mais quand vous êtes face à un problème, il y a une réponse à apporter. Comment l'apporter, cette réponse-là? Et c'est toute une formation, le rôle du maire, la formation du maire. Et je faisais, pendant des années, deux rencontres par soirée, de septembre à avril. On faisait entre 60 et 70 réunions de formation sur des thèmes très divers. Et là, j'ai rencontré tous les élus du département. Je pense qu'au bout de 5 ans, au bout d'un mandat, je pouvais les appeler tous par le prénom, et que ce soit les maires, que ce soit les adjoints. Parce que j'y étais à toutes ces réunions. Et à partir de là, on croise des gens, que ce soit à Barre, que ce soit à Salvagnac, que ce soit à Cultuza, que ce soit à Saint-Amand-Soult, à Pampelonne, dans tout le département. Et on s'imprègne de ça. On s'imprègne de cette vie-là, de cette vie locale. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire d'autre, à franchir un autre pas.
Et l'autre pas, c'est le Sénat, forcément.
C'est le Sénat.
Qui est, on va dire, la représentation des collectivités territoriales, beaucoup plus que l'Assemblée nationale. Tu mènes cette campagne, donc, auprès des élus ici, qui votent pour toi, pour ce mandat-là, et qui font de toi le sénateur du Tarn, à partir de 1995. Quand tu arrives donc au Palais du Luxembourg avec ce mandat-là, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu veux apporter au Tarnais dès ce moment-là?
Alors franchement, une étape, l'élection, campagne électorale, bien sûr, campagne électorale sénatoriale, c'est globalement 80 jours pour faire le tour de tous les conseils municipaux. Donc plus de 3 mois, à peu près. Ça se fait en fin d'été, entre-temps il y a plein de fêtes partout, et ça mérite d'y aller à ces fêtes locales. Ça fait partie de la règle du jeu. On est du terrain ou on n'est pas du terrain, donc il faut y être. C'est effectivement quelque chose de lourd, mais quand il y a l'enthousiasme, tout redevient possible et tout redevient léger. Donc ça a été une vraie passion. On arrive au Sénat, on s'est retrouvés à deux. Je ne peux pas oublier mon collègue de l'époque, Georges Massars, qui est originaire du nord du département et qui était dans le sud du département, il était proviseur à Dourgne. Donc, tous les deux, on arrive avec notre valise, le Sénat. Je crois que j'avais fait deux visites du Sénat, mais visites juste dans les couloirs, quoi, c'est tout. Quoi, hein. J'avais vu l'hémicycle, c'est tout, ça s'arrêtait là. Et très honnêtement, je ne connaissais pas grand-chose quoi, de tout ça. Et c'est vrai qu'on est impressionné. Et j'ai été très impressionné quand j'y suis arrivé. Au point qu'on se pose la question, quelle va être ma place là? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Quel lien je peux avoir avec le département? C'est toutes ces questions qui se sont posées à moi, à nous deux d'ailleurs, pareil, de la même façon. Et puis, il faut laisser un peu de temps, hein, le temps de respirer, le temps de voir la maison, de connaître la maison, et surtout, le temps de connaître quelques collègues. Où je me suis aperçu que, parmi les jeunes sénateurs, j'avais 45 ans à l'époque, parmi les jeunes, il y avait les mêmes interrogations que les miennes. Je n'étais pas le seul à m'interroger, à regarder, hein, et à essayer de découvrir. Et ceux qui étaient un petit peu plus anciens, on discutait beaucoup, bien sûr, avec eux. Je me suis aperçu qu'ils avaient eu, eux aussi, la même interrogation. Et quand on arrive, pendant un an, deux ans, c'est vrai que on est, je ne veux pas dire bloqué, mais...
On se cherche.
On se cherche. Mmh. Comment on peut intervenir?
Mais là, l'effet de groupe, parce qu'on appartient à un groupe quand même politique, toi c'était le Parti Socialiste, voilà, est-ce que l'effet de groupe rassure un peu parce que les anciens socialistes, ils te prennent un peu sous leurs ailes, ou est-ce que là, en l'occurrence, l'effet de groupe ne marche pas forcément, ou même ceux de la droite, ceux du camp d'en face, comme on peut dire, ils essayent aussi de te donner des conseils?
Alors, dans ma première approche, première réponse, l'effet de groupe, oui, aide, bien sûr. Il aide, pourquoi? Parce qu'il y a des collègues qui y sont et qui sont prêts à t'aider, à te conseiller. Oui, ça existait et ça s'est passé comme ça et ça m'a bien aidé, je le reconnais. Et à nous tous, ça nous a aidés. Il y a aussi des salariés du groupe qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans pour certains, qui ont la pratique, qui ont l'expérience, qui peuvent te conseiller, t'aider. Ils l'ont fait. C'est rassurant. Et puis ensuite, il faut le dire comme c'est, il y a les collègues de la région Midi-Pyrénées. Et les collègues de la région Midi-Pyrénées, j'ai envie de dire, toute sensibilité politique.
Ouais, tous ceux qui disent chocolatine, quoi.
Ouais, toute sensibilité politique. Tu es de la région Midi-Pyrénées, le lundi soir ou le mardi matin, on prenait l'avion ensemble. Le jeudi soir, on rentrait ensemble, il y a quelque chose qui se crée, il y a un lien qui se crée. Et ce lien est rassurant. Tu as un problème, écoute, appelle-moi, ou appelle ma permanence, on verra comment on peut t'aider. Voilà un petit peu ce qui résulte de cette première approche. Oui, l'effet des collègues de la région Midi-Pyrénées m'a beaucoup aidé. Incontestablement. Et ensuite, il y a un quatrième volet qui a beaucoup compté, en tout cas pour moi. J'étais affecté à la commission des affaires économiques. Je l'avais demandé. Commission des affaires économiques. Et dans la commission des affaires économiques, on se retrouve avec des collègues qui ont une connotation rurale aussi. Et la grosse majorité, c'était des ruraux. Et j'avoue franchement que ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a une sorte de soutien. Tu es jeune, tu arrives, certains étaient là depuis 20 ans, je ne veux pas dire qu'ils te prennent en charge, mais incontestablement, oui, ils m'ont aidé.
Vous parlez un peu le même langage, vous avez connu un peu les mêmes réalités.
Exactement. Mmh. Et 20 ans après, 30 ans après, nous sommes devenus amis. On se voit. On se croise toujours, ça ne s'oublie pas. Et ça, c'est un côté que j'ai découvert, que je ne savais pas, que dans la République, il est important d'avoir chacun d'entre nous des idées, des orientations politiques, des choix pour un chemin, et pour dire, voilà, je voudrais vous amener là, vers cette étoile, qui est un petit peu la mienne. Et à côté de ça, il y a des gens qui ne partagent pas la même étoile, mais qui ont respect de l'homme qui est merveilleux. Et ça, ça a été pour moi une grande découverte.
La voix que vous entendez sur CFM Radio est celle de M. Jean-Marc Pastor, ancien sénateur du Tarn. Il nous reçoit chez lui pour cette émission spéciale. Et après la musique, nous parlerons du métier de sénateur, un mandat souvent méconnu mais pourtant essentiel dans la démocratie française. Robotic, hypnotic, Amazonian shopping for the masses in your cachet. You need a little more plastic in your life, bro, is that right now? All your clothes are from sweatshops and their saviors, your labor, social handcuff enslavers. Your search history's gold, mystery, rimshot, kick, clap, hole. From the southeast and the cold east, the middle east and Rome. It's tweet this, snap that, all the things that make you go. A sucker punch and a cold ass lunch don't speak till you've been told. So walk with me down memory lane, when the phone in your pocket only had a few games. Help me believe, don't patronize, no. Is this clickbait my new safe space? Sit back and do what you're told. So walk with me down memory lane, when the phone in your pocket only had a few games. One state, two state, now it's your brain. Throw me the keys to your cuffs and then I'll be on my way. Walk with me down memory lane, when the phone your pocket only had a few kids.
Model in the interest of protecting individual privacy.
Congresswoman, I'm not sure what that means.
Nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Marc Pastor, ancien sénateur du Tarn. Quasiment pendant 20 ans, entre 1995 et 2014, hein, il a représenté le Tarn au Palais du Luxembourg, au Sénat. Donc, et les sénatoriales arrivent là dans nos prochaines élections, c'est au mois de septembre, un vote qui est un suffrage plutôt indirect. Hein, monsieur et madame, tout le monde ne vote pas, mais ce sont plutôt des élus, des collectivités, des parlementaires hein, qui choisissent qui sera nos prochains sénateurs. Alors, Jean-Marc, on entend souvent parler des députés, beaucoup moins des sénateurs, si ce n'est peut-être du président du Sénat qui est la plus grande star parmi toutes, hein, Gérard Larcher, que tu as côtoyé aussi. Mais si tu devais expliquer simplement à un jeune collégien, par exemple, à quoi sert un sénateur, tu lui dirais quoi ?
Alors d'abord, il faut parler du Sénat. Quand je parle du sénateur, c'est d'abord le Sénat. Le Sénat, c'est quoi ? Et nous sommes dans un schéma de fonctionnement en France et dans beaucoup de pays au monde. La grosse majorité des démocraties fonctionne selon le principe du bicamérisme.
Deux chambres.
Deux chambres. Mmh. Hein, une chambre de députés, une chambre de sénateurs. Certains les appellent différemment, peu importe. Et la grosse majorité ont deux types de créneaux d'élection. Justement, pour apporter une stabilité à la vie du pays. Une stabilité à la République. Un, c'est le représentant du citoyen. Ou c'est le citoyen qui va l'élire, c'est le député. L'autre, c'est le représentant des espaces, du territoire. Parce que chaque homme vit sur un espace, sur un territoire. Certains vivent dans des espaces et des territoires concentrés. Ils sont dans des grandes villes. Et la grosse majorité, quand je dis la grosse majorité, pas en population actuellement, hein, ce sont les territoires. Des gens qui vivent dans des espaces, qui font la vie. Eux aussi, autant que les autres. Mais comme ils sont minoritaires, il ne faut pas les oublier. Et le Sénat a la charge d'essayer de trouver des options d'équilibre entre tout ça. C'est le représentant des territoires. Ça, ça fait partie d'une première différence, première option. Deuxième option, la particularité du Sénat, c'est qu'il ne peut pas être dissous par le président de la République, comme peut l'être l'Assemblée nationale, de manière à obliger qu'il y ait en permanence un fil conducteur à la gestion de la République.
On parle souvent de contre-pouvoir, d'ailleurs, quand on parle du Sénat.
Ça fait partie du contre-pouvoir. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'hommes, je dirais, de fort caractère, n'appréciaient pas spécialement la présence du Sénat. Le général de Gaulle avait souhaité le supprimer. Jospin faisait partie de cela aussi. Et oui, parce que ça, c'est un contre-pouvoir. À quelque part, ça peut les bloquer, et ça les bloque parfois. Il y a une obligation de ça, de manière à assurer une certaine modération dans la vie publique nationale et dans la République.
Et avant qu'une loi ne soit votée, elle passe par l'Assemblée nationale, ensuite elle arrive au Sénat pour revenir à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi sert ce qu'on appelle souvent la navette parlementaire ?
Un texte de loi peut être issu du gouvernement ou du Parlement. Et les parlementaires, nous avons un quota possible pour déposer des textes de loi à nous. Le gouvernement décide qui va être la première chambre qui va le lire. C'est ou le Sénat ou l'Assemblée nationale. Et une fois que c'est passé en première lecture, admettons, à l'Assemblée nationale, il y a une première lecture au Sénat, avec des modifications, obligatoirement. Et ensuite, ça repart à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale réexamine les modifications qu'a apportées le Sénat et refait d'autres modifications. Et ça revient en deuxième lecture également au Sénat avec des modifications. Ou pas de modifications. S'il n'y a pas de modifications, la loi est votée. C'est réglé. Généralement, il y a toujours quelques modifications. Une simple virgule là suffit pour dire c'est une modification. Donc, il faut trouver un compromis. Et il y a ce que l'on appelle une commission mixte
parlementaire
qui est composée de 7 députés, 7 sénateurs. Les 7 députés, obligatoirement, on y retrouve tous les groupes politiques. Les 7 sénateurs, pareil, tous les groupes politiques doivent y être. Et cette commission se réunit et arrête ses travaux que quand il y a un accord. Donc, ça peut des fois durer 2 jours, 3 jours. Des fois, ça dure 2 heures. Ça dépend. Mais ça prend du temps. Et c'est là où on commence à toucher du doigt qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que la démocratie. La République et la démocratie, la base, ce sont des hommes et des femmes qui ont des idées, qui partagent des options, qui ne sont pas les mêmes. Certains plus à gauche, certains plus à droite, certains plus du côté humain, d'autres plus du côté financier, je dirais. C'est une image très schématique que je donne, peu importe. Mais chacun se respecte. Ça, je le dis et je le redis en permanence, chacun se respecte.
Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit sur les plateaux de télé, en fait, ou dans les émissions radio. C'est ça que tu veux nous dire quand tu dis que chacun se respecte, parce que souvent on a l'impression qu'ils ne sont pas si copains que ça, et pourtant finalement on se doute qu'ils sont quand même bien copains entre eux.
Alors bien copains, je ne suis pas sûr, mais se respecter, ça, c'est, je parle moi de ce que j'ai vécu. Parce que ce que je vois aujourd'hui ne me donne pas cette image-là, je le dis franchement. Et à quelque part, ça me désole. Parce que la République, c'est le fonctionnement de cette commission mixte. Chacun doit essayer de se rapprocher.
Trouver des compromis.
Trouver le compromis. Vous savez, comment fonctionne un jury au tribunal ? Il y en a un qui va dire, celui-là, il faut qu'il en prenne pour 20 ans. L'autre dit, non, 10 ans. Comment ça fonctionne ? Le juge avec les jurys, et bien celui qui est à 20 ans, il faut qu'il passe à 19, celui qui est à 10, il faut qu'il passe à 11, puis à 18, puis à 12, de manière à trouver...
Ils se retrouvent quelque part.
Et oui. Et bien la fabrication d'une loi, ça doit être ça, et c'est ça dans la commission mixte. Ça fonctionne pas toujours comme ça, c'est vrai, mais globalement, cela tourne sous cet angle-là, et ça, c'est important.
Que fait un sénateur que ne peut pas faire ou que ne fait pas un député ?
Ça, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, parce que le sénateur a les mêmes pouvoirs que le député, hein, pas plus, pas moins, si ce n'est qu'il a une orientation un petit peu plus différente que celle du député, puisqu'il est là pour représenter les collectivités, les communes, les conseils généraux et les territoires. Ça, c'est le sénateur. Le député représente le citoyen. Donc, il est évident que les préoccupations sont peut-être un petit peu différentes. Mais il n'y a pas d'obligation et d'interdiction à un député de s'occuper aussi d'une commune. Pas interdit. Il n'y a pas une interdiction à un sénateur de s'occuper aussi d'un problème particulier d'un citoyen. C'est pas interdit. Donc, il y a des rapprochements quand même qui sont assez, assez similaires.
À partir de là, toi qui étais sénateur du Tarn pendant 19 ans, ou 18 ans exactement, 19 ans, est-ce qu'il y a un dossier, une loi, ou en tout cas un fait qui a changé ou qui a apporté quelque chose au Tarn que tu as représenté donc, durant autant d'années ?
Alors, incontestablement, je dois avoir de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai porté sur mon nom 26 textes de loi, mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué. J'étais donc sénateur, président de l'association des maires. Et un jour, le maire de Castres me voit et me dit « Écoute, Jean-Marc, on a un problème. On faisait traiter les déchets par une entreprise privée, dont je ne dirai pas le nom. Et cette entreprise privée, on a renouvelé donc, le marché. Elle multiplie par 2,5 le coût du traitement. Et il faudrait que l'association des maires regarde ça de plus près. Alors je fais un petit groupe de travail et on regarde le sujet. Et je me rends compte que dans la région Midi-Pyrénées de l'époque, c'était la région Midi-Pyrénées qui était plus petite que la région Occitanie, je fais le tour des départements et tous, même interrogation. En fait, il y avait dans la région 4 entreprises privées qui faisaient le traitement des déchets. Elles s'étaient entendues. Toi, tu te prendras le Tarn, moi je prendrai l'Aveyron, toi tu prendras le Tarn-et-Garonne, etc. Et bien sûr, il n'y en avait qu'un seul qui répondait dans chaque département. Boum, le plein pot. Oh là là, on dit ça ne peut pas durer ça. Alors, on est en train de tordre le contribuable. Donc, on s'en est préoccupé. Et j'ai lancé la réflexion pour créer en 1999 TRIFIL, c'est-à-dire un syndicat départemental de traitement des déchets. Et le hasard de la vie, au Sénat, j'ai eu quelques missions, plusieurs missions, et là j'avais une mission qui m'avait été confiée par un ministre. Quand on est en mission, pendant 6 mois, on n'est pas parlementaire. On doit faire un rapport au terme des 6 mois et le remettre au ministre. Et si on ne le remet pas au terme des 6 mois, on perd son statut de parlementaire. Donc on le remet. Quand on est en mission, on a 3 hauts fonctionnaires qui te sont affectés et un budget et un bureau au ministère. Donc à toi de travailler. Et rendez-vous dans 6 mois. C'était sur les OGM. Un sujet également passionnant. J'ai fait le tour du monde sur cette question-là. Et je me trouvais ce jour-là à Chicago, où j'allais dans une université au sud de Chicago qui avait travaillé les OGM depuis plus de 50 ans. C'était le consul général qui m'accompagnait à Chicago, parce que quand on est en mission, on représente aussi le gouvernement. Et en sortant de Chicago, je vois des dômes. J'ai dit, qu'est-ce que c'est la perte de vue, quoi. Oh, il me dit ça, c'est leur système de traitement de déchets. Oh, j'ai dit, mais moi, ça m'intéresse autant que les OGM, parce que moi, dans mon département, j'ai ce problème-là. Et comment ils font ? Alors, ils m'expliquent, méthanisation, ce sont des silos fermés, etc. Pendant 15 ans, ils récupèrent, 15-20 ans, ils récupèrent le gaz, et ce gaz, ils le font turbiner, ils en font de l'électricité, et plus de la moitié de Chicago est alimenté en électricité par leurs propres poubelles. Mais j'ai dit, c'est fabuleux. Ça, à tout prix, je veux le voir. Donc, je fais ma mission là, pour les OGM. Et je dis, je reste un jour de plus. Je veux aller les voir. Ils se débrouillent, prennent rendez-vous et je vais les voir. Et je découvre leur système de traitement de déchets par méthanisation. C'était ce qu'on appelait le bioréacteur. Il m'explique tout ça, ok. Je leur dis, moi, ça me passionne. Si éventuellement, vous ne viendrez pas nous l'expliquer en France, parce que vraiment, on a ce problème. Et quand je reviens, j'avais mis en place un comité départemental pour le traitement des déchets. Et bien sûr, je leur présente ça. Unanimité en disant, franchement, ça, ouais, c'est mieux qu'un incinérateur, quoi, franchement. C'est assez écolo, c'est assez. Et ça produit de l'énergie. Donc c'est formidable, quoi. C'est naturel. C'est la nature qui travaille. Parfait. On met en place le système, on se met d'accord, et justement là, figure-toi que je m'aperçois qu'il y a une loi française qui interdit la méthanisation. Interdit la méthanisation. Pas possible. J'étais parlementaire. Je fais une loi qui fait que la France peut méthaniser ses déchets, peut méthaniser des produits agricoles, peut méthaniser, peut faire de la méthanisation naturelle. Je fais le tour de tous les groupes politiques au Sénat. Tous me disent, ok, j'en marre. D'accord. Là-dessus, on est d'accord. Je le présente, c'est voté à l'unanimité. Ça passe à l'Assemblée nationale. Je fais le tour des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Tous d'accord. La loi est votée. 6 mois après, ou 7 mois après, les décrets sortent.
Décret d'application.
Décret d'application. Et bien sûr, comme la loi était passée, le préfet, c'était le préfet Philizot à l'époque, je m'en rappelle très bien. C'était en 2003, quelque chose comme ça, 2002. Donc, on achète des terres à la Bessire-Candeille, au centre du département, une exploitation agricole. J'ai acheté 19 hectares. Hein. Aujourd'hui, sur le site, il y a 250 hectares. Sans expulser personne, ça s'est passé sans problème. Très bien, merveilleux. Et on était prêt à faire, bien sûr, les silos pour pouvoir... Tout était prêt, tout était lancé.
Il y a un mai qui va arriver à un moment, là, j'ai l'impression.
Et effectivement, il y a un mai. La loi était faite, et c'est là où, en tant que parlementaire, tu peux apporter quelque chose. Et le mai, c'était quoi? C'est que le directeur au ministère de l'écologie et de l'environnement, je ne dirai pas son nom, mais je l'ai en tête, en 2004, envoie une circulaire à tous les préfets de France, en leur disant, voilà, pour appliquer cette loi, voilà les conditions, ceci, ceci, cela, cela, etc. Il y en avait 4 pages. Ce qui rendait impossible la mise en pratique de cette loi. Et le préfet, un lundi matin, à 7h15, m'appelle pour me le dire. Un lundi matin. J'ai dit, écoutez, monsieur le préfet, je viens vous voir. On en parle, il me le montre, cette circulaire. Parce que la République française a quelque chose de beau. C'est que le Parlement peut faire une loi, peut la voter. Les décrets d'application, ce ne sont pas les parlementaires, ce sont les hauts fonctionnaires et l'administration qui les font. En Allemagne, par exemple, quand les parlementaires présentent une loi, ils présentent les décrets d'application qui sont votés en même temps. Nous, on présente la loi et les décrets d'application arrivent après coup et faits par des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire pas par des gens qui vivent l'événement de la loi. Ce qui détourne des fois les conclusions de la loi. Je suis obligé de le dire malheureusement. Et il y a une troisième étape qui est entre les mains seules des plus hauts fonctionnaires qui peuvent faire une circulaire pour interpréter le décret d'application. Ce qui veut dire qu'à la sortie, le pauvre bonhomme qui a fait une loi, quand c'est passé par toutes ces grilles, eh bien il ne s'y retrouve plus. Et c'était ce qui s'était passé. Alors je dis à ce monsieur, écoutez, je connaissais un petit peu, je l'avais déjà croisé. Mardi matin, je suis à Paris, puisque tous les mardis, mardi, mercredi, jeudi, on est au Parlement. Je viens vous voir. Et le mardi matin, à 10h, j'étais dans son bureau. On a discuté. On ne s'est pas compris. jusqu'à un moment où il me dit, mais vous savez, monsieur le sénateur, s'il faut maintenant prendre en compte tous les désiderata de tous les élus, mais on ne gère plus le pays. Là, je suis devenu tout rouge. De mes deux mains, je tapais sur son bureau, je me suis levé, et je lui dis, ce que vous venez de dire là, seules les dictatures peuvent se permettre de parler comme ça aux représentants du peuple. J'ai toujours combattu les dictatures, je vous combattrai. Et je suis sorti. Je l'ai foutu au tribunal. Je l'ai foutu au tribunal administratif, tribunal d'État. Un an et demi après, le tribunal, bien sûr, me donne raison. Et comme la plainte, je l'avais faite déposer par Trifil, que nous avions déjà constitué, l'État a-t-il dédommagé Trifil de 1 700 000 euros pour décalage de l'application de la loi. Et ce directeur, c'était en 2004, a pris sa retraite il y a un an et demi, toujours directeur au même ministère. C'est pas beau la République quand même.
C'est formidable.
Et
c'est ainsi que Trifil naît.
Et oui, c'est ainsi que Trifil a pu naître. Je dis ça parce que ça aurait été le cantonnier du coin, il aurait été viré, lui. Bon, mais enfin, passons. Et Trifil a pu naître parce qu'on a pu faire de la méthanisation. Voilà un exemple qui m'a beaucoup marqué, parce que Trifil, c'est 30 ans de ma vie. On fait du gaz, on fait de l'électricité, on fait de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est 16% du gaz qui est introduit dans le réseau de gaz de ville que nous produisons à partir de nos déchets. Il ne faut quand même pas oublier, seul département de France à faire ça. Si tous les départements de France faisaient un petit quelque chose pour nous rendre un petit peu plus autonomes dans le domaine de l'énergie, on achèterait peut-être un peu moins de gaz à Poutine, avec lequel on ne peut pas dire qu'on soit ami-ami. On achèterait peut-être un petit peu moins de pétrole à des pays arabes, où on fait un chèque important chaque année à certains de ces pays, dont une partie de ce chèque va être utilisée pour subventionner Daesh, qu'on va combattre par la suite, c'est quand même terrible. Oui, nous avons quelque chose à faire pour retrouver une forme d'autonomie. L'indépendance politique d'un pays commence par l'indépendance énergétique du pays. Et l'indépendance énergétique du pays, ce n'est pas que l'État français. C'est aussi à chacun d'entre nous d'avoir notre petite part et d'apporter notre pierre à l'édifice.
J'ai commencé à cette émission en te demandant quel était encore ton intérêt pour la politique. Eh bien, on voit où il est encore cet intérêt-là, quasiment à la fin de cette émission, qu'on va clôturer en te demandant, parce que là, dans quelques mois, il y a de nouveaux sénateurs qui seront élus en France. La campagne a déjà démarré. Hein, dans le Tarn, on voit des sénateurs sortants qui sont en train de se balader, ceux qui se présentent aussi, qui commencent déjà à se balader dans des villages. Quel conseil donnerais-tu à celles et ceux qui vont entrer au palais du Luxembourg, là, comme ça, à une époque où toi-même, tu nous l'as dit, tu ne reconnais plus forcément le paysage ou en tout cas l'ambiance politique en France?
Je crois que le premier conseil, c'est de respecter les règles de base de la République. C'est-à-dire être capable de se trouver autour d'une table avec des gens qui ne partagent pas tes mêmes idées politiques, mais qui partagent la même chose, la même envie de l'intérêt général. Et quand on partage la même envie de l'intérêt général, même avec des gens qui... Eh bien, on arrive toujours à trouver un chemin commun pour avancer. Vous savez, dans la vie, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai été pendant 6 ans représentant du Parlement français à l'ONU, j'ai eu l'occasion de croiser un homme, Mandela. Je n'explique pas pourquoi, peu importe. Bon. Et on était dans le bureau, tous les deux. Il y avait l'ambassadeur d'Afrique du Sud et l'ambassadeur de France à l'ONU, qui servait d'interprète. Et à la fin de l'échange, puisque c'était à l'époque, suite à une demande du président Chirac, qui m'avait demandé de le voir pour un sujet particulier, je lui dis, président, j'ai une question à vous poser parce que ça me débranche. Comment vous vous comportez vis-à-vis des gens qui vous ont privé de 25 ans de votre vie? Il réfléchit 5 secondes. Et il me dit, il y a 3 choses qui constituent ma vie. 1, il ne faut jamais oublier. 2, il ne faut jamais pardonner. 3, il faut toujours chercher à bâtir un chemin de vie avec les gens qui vous ont fait du mal ou avec leurs amis dans l'intérêt général. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et en sortant du bureau, il me tape sur l'épaule et me dit « Oui, mais vous savez, il faut être deux. Il faut que l'autre accepte aussi. » Alors s'il y avait un conseil à donner, eh bien oui, c'est de respecter ce chemin et ce merveilleux message. J'ai essayé de le faire. Ce n'est pas toujours évident.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Pastor pour ces mots et de nous avoir accueillis là chez toi, comme ça, pour ce retour sur plusieurs années passées au service du Tarn et au cœur du Sénat français. Voilà, c'était important pour nous d'avoir comme ça un tour d'horizon avec quelqu'un qui a occupé ces fonctions-là dans cette chambre qui représente les territoires et qui participe à l'élaboration de nos lois. Merci beaucoup Jean-Marc Pastor d'avoir partagé tes souvenirs et ton expérience avec nous. Sur CFM Radio, dans une prochaine émission, on passera encore plus de temps, même là pour le coup, pour brosser un peu plus que ça de toute ta vie. Merci beaucoup.
Merci Jacques.